littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. L'attaque de la femme de 50 pieds. Olivier Cotte.
Être une femme de 50 pieds, c'est pas un problème, sauf que ça coûte très très cher en chaussures. Sinon, 50 pieds, ça fait 15 mètres, 15 mètres 24, donc on va pas chipoter, on va mettre 15 mètres, c'est pas si important que ça. C'est un film tout à fait emblématique, en fait, d'une problématique surtout utilisée dans le cinéma des années 50, au moment où il y avait une réelle fascination pour les transformations, on était là dans la peur de l'étranger, on était dans la peur du communiste, surtout aux États-Unis, et la peur du nucléaire qui pouvait engendrer des mutations, et notamment amener soit à agrandir le personnage ou à le rétrécir, enfin en tout cas, de toute façon, dans tous les cas, amener une différence d'échelle. Et puis, bon, c'est vrai que techniquement, il y avait un certain nombre d'innovations en termes d'effets spéciaux qui ont permis de pouvoir réaliser certains plans qui auraient été quasiment impossibles à mettre en scène dans les décennies précédentes. C'est aussi l'époque, de toute façon, où le cinéma cherche à avoir un certain aspect un peu spectaculaire. C'est le moment où vraiment l'écran large va pouvoir se généraliser, la couleur également. Il y a même certains films que l'on va voir, dont on va parler, qui développent des procédés en relief, etc. Tout ça, ça se passe dans les années 50 principalement. Et on va d'ailleurs particulièrement étudier la période qui est liée au film classique de l'attaque de la femme de 50 pieds et qui correspond à la fin des années 50. Alors la femme, justement, l'attaque de The Attack of the 50th Foot, curieusement, pas fit, Woman. C'est un film qui sort en 1958, réalisé par Nathan Juran, dont on va voir un petit portrait. Alors, curieusement, il est crédité en tant que Nathan Hertz. Alors, le scénario, c'est plus intéressant, non pas que le scénario soit particulièrement connu dans le monde du cinéma, mais comme il avait écrit l'année précédente The Amazing Colossus Man, on sent bien que c'est sa spécialité. Il y a d'ailleurs, on va le voir, quelques réalisateurs qui ont vraiment été des spécialistes du cinéma utilisant des différences d'échelle entre personnages. Alors, le film, ça, c'est très intéressant, on le voit, est un succès. Budget de $85,000 et qui en rapporte $480,000. Ça, évidemment, ça encourage à poursuivre ce type de production. Donc les affiches sont évidemment représentatives du contenu. Là j'en ai mis trois différentes parce que j'aime beaucoup les systèmes qui consistent à passer une partie de l'image par exemple en noir et blanc tout en mettant des couleurs qui n'ont pas forcément grand chose à voir en arrière-plan. Et évidemment l'affiche comme le film met en avant sur la même image, les deux univers en termes d'échelle, le nôtre et celui de la créature qui a grandi.
Some normal momentously.
Voilà, donc une bande son assez, une bande annonce pardon assez spectaculaire, hein, genre le best-of des plans du film. Alors, je vais mettre quelques images pleines d'eff. Ce qui est intéressant de s'apercevoir, c'est à quel point en fait c'est extrêmement rudimentaire. Vous avez vu la main, c'est une horreur hein, quand même. C'est bosselé de partout. La manucure est à revoir totalement aussi, hein, comme vous apercevez quand même les ongles, c'est pas ça. Il semblerait que non seulement elle ait grandi, mais qu'elle ne soit pas améliorée, en tout cas pour les gros plans. Après, en plan large, quand c'est une véritable actrice, tout va quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est joli. Alors, très souvent, on voit dans ce film des plans assez rapprochés de la main. Alors, c'est vrai que pour des raisons de mise en scène, c'est quand même beaucoup plus pratique, vu qu'on a tout de suite une interaction entre la femme de 50 pieds et l'environnement humain. Elle peut prendre des personnages humains dans sa main. C'est le plus clair en fait en termes narratifs. Par contre, le problème, c'est qu'une main, ben, c'est pas facile ni à dessiner ni à modeler. Ils auraient quand même pu faire un effort, je trouve. Mais bon, vu le montant le budget du film, c'est un petit peu normal que l'on soit avec ce résultat, parce que finalement, c'est au départ un film de série B. Attention, la remarque. I can't shoot a lady. Alors lui, c'est le mari, ça ne le dérange pas de shooter la lady. Hein. Alors, je vous signale quand même, pour pas que vous soyez trop effrayés ce soir, à la fin, c'était une marionnette qu'elle tenait dans sa main. Alors, pourquoi a-t-elle tué cette pauvre femme dans le bar ? Parce que, tout simplement, ben, voilà, son mari la trompait et qu'elle ne supportait pas ça. Elle a bien raison, d'ailleurs. En fait, ce qui est très intéressant dans le film, et là, je ne vais pas plaisanter, c'est que pour un film que de 1958, il y a un certain nombre de revendications féministes dedans. Bon, ben, à remettre quand même dans le contexte, hein, on n'est pas dans les années 70. Qui font en sorte que la femme se rebelle d'être maltraitée et surtout de n'avoir aucune considération, pas être considérée plutôt. On va avoir quelques autres exemples de ce type-là après, parce qu'on va voir que le film a bénéficié, entre guillemets, d'un certain nombre de remakes qui reprennent toutes les thématiques et qui, alors, plus ou moins, les modernisent généralement, et puis évidemment qui essayent quand même de faire en sorte que ce soit un petit peu plus crédible en termes d'images et d'effets spéciaux. Alors, le film est donc réalisé par Nathan Juran. Nathan Juran est un réalisateur assez intéressant, d'origine roumaine, qui a travaillé principalement dans le domaine du film, de l'imaginaire, principalement la science-fiction, qui a aussi travaillé pour la télévision, notamment à partir des années 60. Alors, évidemment, sa filmographie est beaucoup plus importante que ce que j'ai mis là à l'écran, mais On a dans les films, parmi les films notables de Deadly Mantis, 1957, donc l'année précédant La femme de 50 pieds. Alors bon, comme on imagine, The Deadly Mantis, c'est une mante religieuse géante. Ça fait très très peur. Et elle est particulièrement craignose, celle-là. Magnifique, kitsch à souhait, une merveille. Toujours la même année, il était très productif, donc 20 millions de lieues de la Terre, avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Et c'est là où ça va commencer à devenir intéressant, parce qu'il va y avoir entre Nathan Juran et Ray Harryhausen une collaboration assez bonne que l'on va retrouver dans le septième voyage de Sinbad, de 58, donc la même année que la sortie de La femme de 50 pieds. Dans le voyage de Sinbad, alors, il y a un certain nombre de très très belles créatures, notamment une créature cyclope qui est très bien animée. Et puis il y a un premier combat contre des squelettes qui sera développé ensuite par Harryhausen pour d'autres films. C'est le moment où il met au point une technique dont on va parler tout à l'heure, qui permet de combiner très très efficacement des prises de vue réelles avec de l'animation image par image, de façon très cohérente et surtout en parfaite synchronisation avec vraiment des relations physiques entre les deux sources, ce qui était à l'époque particulièrement brillant. Et on a évidemment en 62 une adaptation de Jack the Giant Killer, d'après le conte anglais Jack, tueur de géants, en français. Et donc il y a World of Giants, c'est une série télé de 13 épisodes qui date de 59, dont on va parler tout à l'heure, parce qu'elle fait en fait partie de cette production qui joue sur les différences d'échelle de personnages. Alors, l'attaque de La femme de 50 pieds a connu un certain nombre de remakes. Alors, celui-là est peut-être le plus rigolo, enfin, encore que. Donc on reprend en fait en gros la même histoire, à savoir une femme qui est pas respectée par son père, par son mari, qui la trompe notamment, fait une rencontre du type le raccourci qu'elle cherchait mais qu'elle ne trouva jamais, et du coup grandit pour et peut du coup effectuer sa vengeance. Alors symboliquement c'est assez intéressant finalement, puisque Le problème, c'est qu'au départ, elle n'avait pas de pouvoir, comme si elle était inférieure. Et donc, avec la taille, elle devient symboliquement supérieure. Elle surplombe les gens et elle peut, du coup, vivre comme elle l'entend et surtout commencer par se venger, parce que bon, c'est quand même toujours... ça fait plaisir, quoi. Voilà. Alors, c'est donc Dari Lana qui interprète le rôle de la femme de 50 pieds, que évidemment on connaissait dans son rôle dans Blade Runner. Alors, il va y en avoir quelques autres qui ne vont pas être forcément plus glorieux, mais en tout cas, j'entends en termes de mise en scène, direction artistique, etc. Un de 95, un de 2012. Bon, il y en a eu quelques autres, mais alors qui sont, bon, c'est même pas la peine de les notifier. Les affiches suffisent généralement à se donner un assez bon aperçu du style du film. Il faut absolument les bières et les chips, sinon ça passe très très difficilement, hein, soyons clairs. Alors, ce qui, quand même, la question, une des questions que l'on peut se poser, c'est finalement pourquoi ça nous intéresse ça ? Pourquoi on est intéressé par les géants ? Parce que bon, là, on parle de cinéma, on parle de la femme de 50 pieds, mais des contes mettant en scène des géants, on en a énormément. Donc, il y a une certaine fascination. De toute façon, c'est simple, ça commence dès la mythologie, et même, j'irais dire, dès les mythologies, les croyances. On a, même au niveau biblique, de toute façon, les Néphilim. On a les géants grecs, on a les géants de la mythologie nordique, on en a chez les Aztèques, on en a en Inde, on en a en Amérique du Nord, on en a au Japon, bref, on en a partout. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans beaucoup de cas, il s'agit de créatures anciennes, c'est-à-dire qui ont préexisté à l'homme, voire qui ont existé tout de suite après la création du monde selon la croyance de l'endroit. Et donc, ces créatures ont une forme de qualité primordiale, comme si, de toute façon, leur ancienneté, leur lien avec les origines, leur conférait une aura surnaturelle. C'est-à-dire, en fait, ce ne sont pas tout à fait des créatures juste de chair et d'os, mais il y a quelque chose de plus. Alors, ça, c'est ce que l'on trouve, évidemment, dans les mythologies. On va voir qu'après, au niveau psychanalytique, ça se passe un petit peu autrement. Voilà quelques représentations classiques des géants dont on vient de parler. Donc, les Néphilim, le combat d'Héraclès contre Anté. C'est très intéressant, généralement, ces vases. Là, ce n'est pas le cas, mais il peut arriver qu'on ait en fait des décompositions, des combats, des mouvements, ce qui en fait quelque part des, non pas des films d'animation avant l'heure, mais en tout cas des décompositions de mouvements qui permettent de se rendre compte de la dynamique. Très intéressant, Codex du Mexique. Bon, dessin plus classique, typique de la fin du 19e pour la créature Ymir, qui est donc un géant de la mythologie nordique. Et puis, alors celui-là qui est très très rigolo, qui est le Daid Arabochi, le géant japonais qui creuse les lacs, les mares, rien qu'en posant son pied, tellement il est non seulement grand, mais en plus lourd. On ne dit pas s'il est stupide, malgré sa tête un peu curieuse. Alors, après la mythologie, en fait, on a ce type d'idée de créature échappant à la mesure humaine est développé dans le folklore, dans les contes et dans les légendes. Et en Angleterre, il y en a beaucoup, et notamment il y en a aussi qui sont rattachés, ça, c'est un petit peu moins connu que d'autres épisodes, qui sont rattachés à la geste arthurienne. Alors, la geste arthurienne, c'est très vaste, parce que finalement, ça couvre 3 à 4 siècles d'écriture sur plusieurs pays, avec évidemment, comme très souvent dans les récits qui ont une certaine forme, disons, universelle, il y a un certain nombre de variantes qui existent. Donc, par exemple, au niveau du combat d'Arthur contre le géant, on a un certain nombre de versions qui existent, sachant que, de manière générale, le géant, quand même, gêne le pouvoir central, voire, dans l'absolu, vient d'ailleurs, c'est très pratique. Et du coup, surtout quand il y a un esprit insulaire anglais, et du coup, doit être combattu pour le bien de la communauté, et puis évidemment pour protéger la victime, notamment du rapt possible. Alors, est-ce que c'est de la fiction, le géant ? En fait, peut-être pas tout à fait. Alors d'abord, je pense qu'il y a un certain nombre d'entre vous qui ont dû se régaler avec le fameux livre Guinness des records, et notamment en regardant la taille des humains réellement répertoriés qui, bon, pour des questions d'ordre biologique, médical, c'est-à-dire en fait hormonal, on détaille bien supérieur à la moyenne. Mais si on parle en fait de, non pas de cas particuliers, mais de races, on a quand même découvert en fait assez récemment, donc au milieu du XXe siècle, quelques ossements donc en 41 dans l'île de Java qui sont des ossements clairement d'humanoïdes proches du gorille, d'une taille quand même supérieure, alors que le gorille, bon, c'est déjà pas exactement un petit ouistiti, et qui en fait sont assez proches d'un squelette humain. Alors au départ, c'était tellement énorme que, si je puis dire, que les scientifiques n'y croyaient pas, quoi. Ils étaient persuadés que c'était un canular, jusqu'à ce que l'on découvre d'autres ossements et qu'on puisse commencer à reconstituer un petit bout, enfin une portion du squelette complet, et qu'on s'aperçoive qu'en fait, oui, il y avait vraiment un hominidé qui existait et qui avait une taille bien supérieure à ce que l'on pensait. Attendez, hop, oui, c'est bon. Alors, après, évidemment, le cinéma, notamment, a beaucoup joué sur les échelles, pas seulement des êtres humains, mais également en utilisant en fait des caractéristiques naturelles d'animaux préexistants et qui étaient d'une certaine taille. Alors, évidemment, on parle principalement des dinosaures, ou alors on prend des animaux et on va changer leur échelle de manière à les rendre plus menaçants. Alors ça, évidemment, on a beaucoup d'exemples. Tout à l'heure, on parlait de la mante religieuse dans le film de Nathan Duran. C'est un exemple assez emblématique, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, prenons un petit peu chronologiquement, il y a juste deux films, mais la première adaptation du Monde perdu, d'après Conan Doyle, un film muet de 1926, qui est plutôt étonnamment bien fait pour l'époque, quand on connaît les problèmes en fait, de tournage, c'est-à-dire des caméras extrêmement instables, une cadence de prise de vue quelque peu fluctuante, des pellicules qui étaient absolument pas sensibles, toutes les difficultés qu'il y a à combiner des images dans ces conditions. Je vous conseille de voir ce film qui a été restauré il y a quelques années, du coup, qui bénéficie d'une assez bonne qualité. C'est quelque part, il est assez impressionnant. Et évidemment, il est relativement proche du roman, parce que c'est pas encore la génération des films qui passent à la moulinette scénaristique, par exemple, d'Hollywood. D'ailleurs, Conan Doyle a vu le film et a été tout à fait charmé par le résultat. Il a dit que c'était un film qui était honnête en termes de transcription cinématographique. Il y a eu toute une campagne publicitaire, comme on le voit. Le monde perdu, quand vous le verrez, vous en conviendrez. Un extraordinaire drame d'amour. Bon, c'est un film qui a fait date à l'époque, parce que bon, finalement, il sortait quand même du lot. Et puis, évidemment, 7 ans plus tard, il y a le King Kong qui est une créature mythologique quelque part, mais qui correspond à un agrandissement d'une sorte de gorille. Bon, la créature a évidemment eu le succès que l'on a. Et a amené deux principaux remakes, un par John Guillermin et l'autre par Peter Jackson. Alors, je parlais de psychanalyse tout à l'heure. Pourquoi est-on fasciné par les géants? En tout cas, on est plus fasciné par les géants que par les toutes petites, enfin par les réductions. D'abord, selon les psychiatres, il s'agit d'un phénomène de régression. On sait ce qu'est un géant parce qu'on a été enfant. Voilà, donc on sait que ça existe quelque part, même si ensuite on est quand même un petit peu informé que c'est un phénomène naturel et qu'on était petit. Mais il n'empêche qu'il y a, il y a une graine qui a été implantée dans l'esprit qui fait qu'on se retrouve à trouver tout à fait légitime que certains soient plus grands et donc plus puissants que nous. Après, il y a quand même là aussi la relation avec le temps. Là, je marque quand Thwaites publie les Voyages de Gulliver en 1726. Bon, comme souvent, quand on a des récits de voyages de contrées étrangères, il s'agit de réaliser, d'écrire une satire sociale ou politique en mettant ça soigneusement ailleurs du pays de publication afin de s'éviter la prison. Mais ceci dit, l'épisode le plus célèbre des voyages de Gulliver, c'est évidemment la rencontre avec les Lilliputiens, etc. Donc du coup, en fait, de retravailler un système de différence de taille. Ça n'aurait pas été vraiment possible si les décennies précédentes, on n'avait pas scientifiquement développé des outils qui permettaient de comprendre que l'homme avait une certaine échelle, mais que finalement il y avait aussi un infiniment grand et un infiniment petit. Télescope, microscope arrivent quelques décennies avant, Pascal y fait référence, on commence à avoir finalement une idée de la relativité de la taille qui débouche sur des récits. En d'autres termes, ça signifie que un mignon petit lézard comme celui-là ou celui-là nous donne ça. Alors, ça, c'est la première. Si on accepte la scène d'ouverture de Jurassic Park, mais avec finalement un dinosaure que l'on voit très très peu, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent de retarder l'arrivée du premier dinosaure pour mettre le public dans un état d'attente. Si le premier qui arrive vraiment et que l'on voit en entier est finalement un herbivore tout à fait paisible, c'est d'abord pour ne pas effrayer, bon, puis pour réserver les T-Rex et autres vélociraptors pour plus tard, mais c'est surtout parce qu'il est très grand, celui-là. On ne commence pas sur un petit dinosaure. De plus, on a une appréciation un peu curieuse des dinosaures, dans le sens où on imagine toujours que c'était des grosses bêtes gigantesques. Or, le problème, c'est que s'il y avait des grosses bêtes gigantesques, je ne sais pas de quoi elles pourraient se nourrir. Donc, il y en avait aussi des petits. En fait, il y en avait de toutes les tailles. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas extrêmement spectaculaire à l'écran. Donc, généralement, on les évite. On les a évités pendant très, très longtemps. Quand on regarde, par exemple, le King Kong de 1933, il n'y a que des gros dinosaures, donc des échelles énormes. Dans les autres Jurassic Park, par contre, enfin les 1, 2, enfin le 2 et 3, on va travailler notamment au début du 2 avec des petits dinos, quand même beaucoup plus, disons, de la taille d'un chien ou d'une oie, qui permettront d'organiser une collection de dinosaures un petit peu plus vaste et complète. Alors, considérons donc les échelles de deux manières différentes. On a toute l'idée, c'est d'établir une différence d'échelle entre un personnage et un autre. Alors, soit on a un personnage qui est plus grand, soit on aura évidemment un personnage plus petit. Alors, en plus grand, la liste est très très longue. Il y a énormément de films qui ont été réalisés à la fin des années 50, on en parlait tout à l'heure. La femme de 50 pieds est très représentative, mais c'est loin d'être un cas unique. On a par exemple War of the Colossal Beast, 58, la même année, réalisé par Bert Gordon, dont on va parler plus tard, enfin tout de suite d'ailleurs. Là encore une fois, on comprend bien que toute l'idée, c'est principalement d'obtenir au final des images spectaculaires. Il y a un point qui est très important qu'il faut en fait comprendre, c'est que à partir des années 50, aux États-Unis notamment, l'équipement individuel, l'équipement des ménages en récepteurs de télé explose littéralement. On se retrouve avec, disons à la fin des années 40, début 50, avec une télé par quartier, et puis à la fin des années 50, pratiquement tout le monde, à chaque foyer, se retrouve avec une télévision. Alors, la télé est d'une très très mauvaise qualité au début. Déjà, bon, c'est en fait le nombre de lignes, et donc la définition elle-même est vraiment faible. Mais ça reste par rapport au ça devient néanmoins par rapport au cinéma un concurrent, et que du coup, les salles doivent montrer quelque chose, doivent avoir une valeur ajoutée, et les productions jouent sur des images qui sont suffisamment spectaculaires pour justifier que le public se déplace. On a finalement un phénomène assez classique que l'on retrouve plus tard, même encore aujourd'hui, il fonctionne. Enfin, hors Covid, évidemment, parce que ça a quand même jeté un grand froid dans la production et surtout dans l'exploitation. Alors, pour parler de Bertira Gordon, j'ai fait un petit chapitre parce que finalement c'est un réalisateur assez peu connu. Et c'est pas non plus un grand réalisateur, mais par rapport à notre thème, il était assez incontournable. Voilà quelques-uns des films avec les affiches originales qu'il a pu réaliser. Entre King Dinosaur, The Amazing Colossal Man, Earth versus the Spider, évidemment The Spider, l'araignée, elle est gigantesque, hein, vous voyez bien dans l'affiche, Village of the Giants et Empire of the Ants, évidemment, là encore une fois, les fourmis sont monstrueuses, on se rend compte qu'il s'est quand même fait une spécialité du genre. Alors, ceci dit, bon, prenons maintenant un peu l'affaire du point de vue scientifique. Est-ce que vraiment on peut agrandir n'importe une bestiole, une fourmi, une mante religieuse ou un être humain comme ça facilement? Alors, la réponse est simple, c'est non. Non, là, on est vraiment dans l'imaginaire total, et ce pour plusieurs raisons. Alors, voilà les trois principales. La première, qui consiste à agrandir les atomes, ne fonctionne pas pour des raison évidente, mais c'est surtout que de toute façon, la bestiole qui aurait une plus grande échelle au niveau atomique ne pourrait pas interagir avec l'environnement, donc il ne pourrait pas respirer, il ne pourrait pas boire, il ne pourrait pas manger, enfin il n'y a rien qui serait possible. Donc on oublie, c'est une recherche que Asimov avait faite, mais évidemment pour la démolir, hein, on est bien d'accord, il ne croyait absolument pas dans la possibilité d'agrandir ou de rapetisser un être vivant. La deuxième hypothèse de travail, c'est d'agrandir les cellules. Alors bon, là, d'un point de vue purement biologique, ça paraît extrêmement douteux. La troisième est un petit peu plus intéressante, mais c'est en fait parce que ça consisterait à multiplier les cellules en proportion, évidemment. C'est quasiment, enfin bon, dans l'état actuel, ça paraît difficile à imaginer. Et puis, bon, après, d'un point de vue scientifique, si on veut s'amuser un peu et qu'on analyse dans les films, on s'aperçoit que c'est... il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Alors, tout à l'heure, on a vu Daryl Hannah faire exploser ses vêtements. C'est finalement assez rare. Généralement, les vêtements grandissent avec la personne, pour être sûr qu'il n'y a pas d'attente à la pudeur, j'imagine. Et de toute façon, une fois que la créature principalement humaine est grande, elle a... Un slip lui apparaît comme par magie, voire même un soutien-gorge, c'est extraordinaire. C'est un phénomène scientifique qui est difficile à expliquer. Et alors, très souvent, la créature a mauvais caractère. Bon, on se demande pourquoi. Enfin, bon, en même temps, ça gâche un peu sa soirée. Hein, s'il avait décidé de passer tranquillement sa soirée dans son canapé à regarder le match de foot, c'est un peu foutu. Là. Et puis bon, évidemment, ce mauvais caractère l'amène à envahir les villes, à casser tout sur son passage. Bref, à avoir un comportement finalement assez gamin. C'est-à-dire qu'on grandit en taille, et c'est un peu comme si on régressait à soit à la gamérie, soit au niveau de l'adolescence où on va tout casser. Voilà. Alors, en plus petit, c'est un petit peu différent. Toc, toc. On a la possibilité de travailler toujours sur la fameuse différence d'échelle qui finalement constitue la fondation de ce type de narration, mais on va le faire à l'inverse, à savoir qu'est-ce qui se passerait si on rapetissait plutôt que de grandir. Alors, il y a une série sur laquelle Nathan Juran a travaillé, c'est-à-dire qu'il y a eu 13 épisodes et il en a réalisé 4, qui est très intéressante et un peu oubliée, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, qui est WOG, c'est-à-dire World of Giants. On ne sait pas exactement pourquoi la personne rétrécit, mais par contre, on voit très très bien... ça date de 59, donc on est en pleine guerre froide, donc on voit très très bien en fait l'utilité qu'on peut faire de l'utilisation de quelqu'un d'une personne qui aurait réduit comme ça, c'est que tout simplement on va pouvoir l'utiliser pour s'introduire chez des personnes et les espionner à leur insu. Alors, il y a eu quand même d'autres très bons réalisateurs, autres que Nathan Juran, notamment quand même Baron Askin, à qui on doit une version de la Guerre des Mondes, qui était en plus produite par George Pal, qui est lui-même non seulement un animateur, mais aussi un producteur et un responsable d'effets spéciaux, ainsi qu'un réalisateur. Plus tard, il réalisera une adaptation de La Machine à explorer le temps d'après Wells. Et en fait, tout simplement, il aura le droit de faire cette adaptation au tout début des années 60 parce que les descendants de Wells qui auront vu La Guerre des Mondes, qui date de 54, si ma mémoire est bonne, auront été très très satisfaits de la manière dont le roman avait été adapté et diront... s'il vous plaît, faites une autre adaptation après un roman de Wells. Et donc, George Pal fera La Machine à explorer le temps. Donc, George Pal produit La Guerre des Mondes de Baron Askin. Et puis, bon, il y a notamment aussi quand même Jack Arnold, dont on va parler un petit peu après, puisque justement, quand on parle de plus petit, on est obligé quand même de parler de The Incredible Shrinking Man, donc l'homme qui rétrécit, qui est un petit chef-d'œuvre. De spectaculaire, mais aussi de poésie. En attendant, World. Ça, donc, voici le début du premier épisode.
And one of the most fantastic films of events ever recorded in the annals of time and the morning as if nothing had actually changed.
Not ready, Al?
Yeah, I'll be with you in a minute, Bill. Just let me put my jacket on.
Bill Winters. Good old Bill. Without him, I didn't want to think what life would be like without Bill. Even with Bill, I'd never be safe, no matter where I was. Things most people wouldn't notice could mean death to me.
Alors, vous aurez remarqué que, comme il s'agit quand même d'une production destinée à la télévision, on essaye de travailler sur des moyens économiques en termes de mise en scène. Par exemple, il est assez rare que l'on ait les deux personnages ensemble, c'est-à-dire en fait l'homme de taille normale ainsi que celui qui a rapetissé. Parce que c'est là, évidemment, où techniquement les problèmes commencent. On travaille en fait, et du coup ça devient inventif, on travaille sur le découpage. On se débrouille pour que finalement le montage et les angles de prise de vue permettent d'exprimer l'idée principale sans difficulté technique et évidemment à faible coût. Alors, cette série est un peu oublié, ça m'étonnerait beaucoup que certains aient déjà vu un épisode. Mais je la trouve assez surprenante parce que quand même, bon, évidemment, faire de l'espionnage quand on est faire une série d'espionnage quand on est en 59, en pleine guerre froide, à 4 ans de la crise deux ans de la crise de Cuba au moment, enfin 2 ans après que les Russes aient envoyé le Spoutnik, ça date de 1957, on est vraiment dans l'espionnage complet. D'ailleurs, 1958, dans la même année, même Hitchcock réalise La mort aux trousses, Neuf par une ouest, qui est une histoire d'espionnage. Enfin, on est vraiment dedans. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir mêlé science-fiction et espionnage. Mais alors, ce que je trouve plus intéressant, c'est que généralement, dans les films qui présentent des personnages qui grandissent ou qui rétrécissent, on essaye de donner une explication logique, ne serait-ce que pour calmer la curiosité du public. Là, on s'en fiche complètement. On dit juste qu'il y a une sorte de maladie, voilà, le type rétrécit, jusqu'à une certaine taille, les scientifiques essayent de comprendre pourquoi, et ça s'arrête là. En fait, c'est une base de départ narrative, mais que l'on ne va pas élucider, on s'en moque complètement. Ce qui nous intéresse, c'est finalement, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Alors, 9 ans plus tard, 9 ans après la production de World of Giants, Irvin Allen, réalisateur et créateur de la version du Monde Perdu 1960, c'est la bande-annonce. Je la laisse parce qu'elle est délicieuse. Regardez bien le chien, il est totalement craquant. Il est même au générique, hein, vous allez voir. Alors ça, ce sont de pauvres lézards sur lesquels on a collé des bouts de carton, hein, je précise. Alors bon, c'est un film qui est, enfin aujourd'hui il est quand même un petit peu difficile à voir. On a en fait tous les poncifs du genre qui sont alignés les uns après les autres. En fait, on est quelque part assez loin de l'esprit des aventures du professeur Challenger, soyons clairs. Donc. On parlait de Irvin Allen. Irvin Allen, donc, 9 ans plus tard, réalise à son tour et produit une autre série dont le titre est Land of the Giants. Alors, 2 saisons quand même, 51 épisodes, diffusés un peu tardivement après que la production soit achevée. Et on a très clairement... estimé que Land of the Giants était très très inspiré de World of Giants que l'on avait vu avant. La série est moins intéressante même si elle a plus de succès, mais ça c'est tout simplement parce qu'en fait l'équipement en téléviseur, le taux d'équipement est bien supérieur à la fin des années 60 qu'à la fin des années 50. Notons que la musique était quand même signée John Williams, qui ne faisait pas tout à fait ses débuts, puisqu'il avait déjà travaillé pour la fameuse série de Twilight Zone de 59 à 61. ce réalisateur vous manquait, de qui parle-t-on? Bah, évidemment, le retour de Bert Ira Gordon, que l'on avait vu, qui a réalisé, qui était spécialiste des... qui l'est toujours. Figurez-vous qu'il est toujours vivant en plus, mais alors il est plus que centenaire, sans rire. Qui avait donc réalisé, on l'avait vu, un certain nombre de films avec des grosses bêtes, des Colossus Man, des Earth versus Spider et compagnie. Et donc, il réalise un film qui est très très rigolo. Regardez la bande-annonce, c'est charmant. Le chien est complètement bigleux, hein. Il est en train d'aboyer vers un autre côté. Bon, bref. Donc, The Attack of the Puppet People, même année que l'attaque de la femme de 50 pieds. Donc, on est vraiment dans une mouvance, hein, c'est très clair. Il y a énormément de films qui sont produits sur, en fait, avec le même mécanisme. Après, bon, il y a l'histoire qui change un peu, mais en fait, c'est le genre de film que l'on va voir plus davantage pour être émerveillé par les images que pour avoir poursuivre un remarquable récit. Alors, parlons aussi des problèmes du minuscule, finalement. Est-ce que c'est possible de rapetisser comme ça des gens? On a vu que pour les agrandir, bon, ce n'était pas très convaincant. Est-ce que pour diminuer leur taille, pour les rapetisser, est-ce que ça serait plus pratique? Ben, la réponse est non plus. En fait, on a là aussi trois points qui vont permettre de nous assurer que c'est vraiment impossible. Alors, la première méthode, ça serait de compresser complètement la créature. Mais comme il y a une force répulsive effectivement au niveau atomique, il faudrait une pression hallucinante et, alors d'abord il faudrait la trouver, et même si on la trouvait, je ne suis pas sûr que le résultat serait très glamour au final. La deuxième méthode, c'est enlever des atomes un petit peu par-ci par-là, enfin si possible de façon quand même régulière, pour que le tout prenne un petit peu moins de place, donc au ratio. Mais ça ne fonctionne pas parce qu'en fait, il y a besoin d'absolument toute la structure atomique pour que un organisme puisse vivre et fonctionner normalement. Troisième méthode, faire en sorte de conserver les atomes ou les cellules, mais diminuer leur échelle. Alors, bon, on ne voit pas trop comment ça serait possible, donc on est vraiment en pleine science-fiction. Ça ne fonctionne pas. Du coup, comment fait-on dans les films? Ben, généralement, on essaye d'éviter d'avoir des trop grosses explications, puisqu'on sait très bien que pour peu que le spectateur ait un minimum de culture scientifique, il va trouver ça tout ridicule et il va quitter la salle, ou alors il va rigoler à haute voix. C'est pas bon pour le petit commerce. Donc, généralement, le scientifique représenté dans ce type de film va être très très évasif. On va plutôt avoir des plans sur l'appareillage qui émet des lumières bizarres. Et puis il va sortir en fait une équivalent de langue de bois en disant que c'est un rayon rétrécisseur. Alors ça veut tout dire et n'importe quoi, ou des choses comme ça. Bref, ça ne marche pas, mais ça a quelque part un peu le même effet que l'on peut obtenir avec un MacGuffin, c'est-à-dire quand on dit qu'il est dans un scénario, quand on avertit le spectateur qu'il est absolument indispensable, par exemple, que l'on retrouve un document qui a été volé au gouvernement et qui risque d'arriver dans un pays ennemi, et que vraiment la sécurité nationale dépend que l'on retrouve du fait que l'on retrouve ce document, ça suffit. Après, on peut enchaîner avec une heure et demie ou deux heures de film, d'espionnage, d'action, etc., avec la personne qui va tout faire pour retrouver ce microfilm. Il n'empêche qu'à aucun moment, on a besoin d'avertir le spectateur du contenu réel de ce document. On ne sait pas si c'est des plans d'une arme secrète, c'est une liste d'agents infiltrés, enfin, des choses importantes comme ça. On s'en moque. L'important, avec ce mécanisme du MacGuffin, c'est qu'on suggère qu'il est vraiment crucial d'avoir un document, et c'est une justification en fait qui permet de faire bouger, de faire agir le protagoniste. Là, on a un peu l'équivalent avec ce type d'explication assez vaseuse quoi, pour justifier le fait qu'on puisse agrandir ou rapetisser un être humain ou un animal. On ne rentre pas dans les détails, exactement comme on ne donne pas le contenu d'un document. On va juste mettre quelques mots-clés qui vont suffire finalement pour convaincre le spectateur pas trop exigeant que ça fonctionne comme ça et qu'on peut faire confiance en le scientifique à l'écran. De manière générale, en fait, ça ne fonctionne pas quand on parle de rapetisser ou d'agrandir, tout simplement parce qu'en fait, on est constitué de briques qui ont une taille donnée au départ et qu'on ne peut pas les changer. Elles font vraiment partie du mécanisme biologique. Alors, concernant le fait de rapetisser, on va prendre deux films emblématiques qui sont magnifiques. Alors, le premier, c'est The Incredible Shrinking Man, 57. Donc, vous voyez, encore une fois, on est dans la même... Dans la même période temporelle, réalisée par Jack Arnold, sur un scénario de Richard Matheson, d'après son roman qui avait été publié l'année précédente. Et clairement, Matheson, de toute façon, qui était déjà scénariste pour Hollywood, avait écrit le livre pour qu'il soit acheté et adapté, parce qu'il savait très bien que c'est ce que cherchaient les studios hollywoodiens à ce moment. Et puis, il y a Fantastic Voyage, en 66, réalisé par Richard Fleischer, qui est un très très beau film, on va voir quelques extraits, qui obtiendra deux Oscars, c'est celui de la meilleure direction artistique, qui est clairement mérité, et celui des meilleurs effets spéciaux, parce que effectivement, bon, on sent qu'il y a des problèmes au niveau des effets spéciaux, mais on était encore en analogique avec le 35. Ils ont vraiment quand même fait mis au point des effets assez remarquables et surtout très esthétiques. On est dans un monde complètement onirique et qui est en fait le nôtre. Alors Jack Arnold, puisqu'on va commencer par L'homme qui rétrécit, bon, on le connaît pour It Comes from Outer Space, qui est un film mais alors d'un kitsch absolu à voir, c'est pareil avec les bières et le paquet de chips. C'est grandiose, mais ça ne... c'est pas un film qui... il reste dans les mémoires, mais c'est pas un film très sérieux, quoi, je veux dire. On a The Creature from the Black Lagoon. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça fait typiquement partie des films qui voulaient amener une valeur ajoutée dans les salles de cinéma, puisque c'est un film qui avait été réalisé avec un procédé en relief. C'est un film en noir et blanc, mais avec deux images, l'une colorée en rouge et l'autre en vert, évidemment, avec deux caméras qui étaient espacées de l'équivalent, enfin la moyenne d'espacement de nos deux axes optiques qui correspond à peu près à 6,5 cm. Quand on met une valeur un petit peu plus élevée, on renforce la dimension volumétrique de l'effet stéréoscopique. Et puis par contre, si on réduit cette cet intervalle, on empêche la profondeur de se développer. Donc, on a deux caméras. L'une ensuite va être le film va être teinté en rouge, l'autre en vert. On met des lunettes de la même couleur, ce qui permet pouf d'envoyer l'image de la caméra gauche dans l'œil gauche et pouf l'image de la caméra droite dans l'œil droit, et donc de reconstituer une vision stéréoscopique de la scène et donc d'avoir une sensation de relief. Ça marche plutôt bien et le film du coup est intéressant pour ce que ça amène en termes d'impact. Et puis il y a le Tarantula qui sera réalisé l'année suivante, qui a encore une histoire de grosse bête qui a mangé trop de soupe. Alors, vous aurez remarqué quand même que le découpage est plutôt assez bien conçu. Ça fonctionne. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, ce type de film est particulièrement impactant si on a les rapports d'échelle qui sont mis en scène, c'est-à-dire que l'on n'a pas seulement d'un côté le chat, par exemple, et de l'autre l'humain rétréci, mais que vraiment on a une interaction à l'image, qu'on voit les deux échelles. C'est là où on a évidemment un impact dramatique. Alors, on verra tout à l'heure pour les effets qui sont utilisés, les procédés techniques d'époque qui permettent de réaliser ce type de plan. En attendant, voyons un petit peu l'autre film et quelques extraits. Alors, là, on est dans une production beaucoup plus importante que pour The Incredible Shrinking Man. On est en scope, on est en couleur, il y a un casting qui est important, il y a un gros effort qui est réalisé au niveau des décors. Là, j'ai mis quelques informations. Vous voyez, le vaisseau, par exemple, a été construit quand même en grandeur réelle. Je rappelle l'histoire très rapidement. Une personnalité politique a été l'objet d'une tentative d'assassinat. Il a un caillot sanguin dans le cerveau. Et la seule façon de l'enlever, parce qu'on n'a pas beaucoup de grandes techniques, c'est en fait de miniaturiser un sous-marin avec un équipage qui va aller par les veines jusqu'au caillot, tirer quelques coups de laser, et hop, on va l'enlever et il sera sauvé. Alors, évidemment, on met une ticking clock au niveau scénaristique, donc une sorte de compte à rebours pour faire monter la pression. C'est qu'ils ont intérêt à faire tout ça en un laps de temps donné, parce que paf, après, ils reprennent leur taille normale. Alors, s'ils sont encore à l'intérieur du type, c'est un peu gênant. Et en plus, évidemment, on va utiliser le fameux truc du faux allié, à savoir qu'évidemment, il va y avoir un horrible traître dans l'équipage qui fait partie de la... Enfin, qui est vendu à la puissance étrangère qui avait déjà essayé de tuer le responsable politique. Bon, voilà. Donc, que du classique, quelque part, mais très bien conçu. Le décor du cerveau fait quand même 70 mètres par 33, donc avec un tel paquet de neurones, c'est quand même difficile d'oublier où on a garé sa bagnole. Et puis, le film fera l'objet d'une novélisation faite par Asimov, qui va pas gagner beaucoup, mais enfin, donc 5 000 $ quand même à l'époque, c'était pas mal. Mais il va pas être très, très satisfait, donc plus tard, il écrira Fantastic Voyage. Le Destination Cerveau en 87, parce qu'il était en fait très très insatisfait du premier travail qu'il avait fait, qui était en fait compliqué à réaliser par rapport à la production, puis bon, il n'avait pas eu beaucoup de temps, enfin bon bref, mauvaises conditions de travail. C'est vrai que quand on a piscine, finalement, on ne peut pas y aller. Alors, voilà quelques extraits des vues à l'intérieur du corps humain. Alors ça, c'était tout à fait nouveau à l'époque, et ça a permis d'amener un type de décor tout à fait inédit. Alors faux, hein, je précise bien, enfin je veux dire, c'est totalement travaillé d'un point de vue esthétique, d'où l'Oscar pour la meilleure direction artistique, mais on a à certains moments des images d'une très très grande beauté. Et vaguement quand même psychédélique. Voilà, et donc lui, il a lu Pascal et il a lu les voyages de Gulliver. On revient sur la problématique de l'entre-deux de l'homme. Alors, je passe à un autre extrait qui est surprenant. C'est qu'à un moment, leur sous-marin dérive. Et ils sont obligés, pour regagner le cerveau, de passer par le cœur. Et alors, du coup, il faut arrêter le cœur du patient un certain temps, mais pas trop, parce qu'il paraît que c'est pas bon pour la santé, hein. Enfin, c'est ce que j'ai lu. Et ils passent par le cœur, et là, on a des paysages magnifiques. Oui, c'est très joli. Les petits radars sont de toute beauté. Bon, vous voyez quand même les problèmes d'incrustation qu'on a, notamment sur les bords extérieurs du sous-marin. On va parler de ces problématiques de technique. Mais ceci dit, c'est pas forcément très grave. Ça, par exemple, c'est un plan magnifique. Alors, les techniques, donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on va quand même avoir des difficultés à trouver des fourmis géantes, des araignées géantes, des femmes de 50 pieds et des individus suffisamment minuscules pour tenir dans un attaché-caisse. Donc, il va falloir absolument tricher. Aujourd'hui, évidemment, avec le numérique, on sait que la plupart des effets sont extrêmement simples à réaliser, mais ce n'était pas du tout le cas quand on était encore en 35. Alors, un des trucs les plus bêtes, les plus économiques et les plus utilisés, même encore aujourd'hui, c'est de travailler sur la perspective artificielle. Alors, qu'est-ce que la perspective artificielle ? Ça consiste à disposer des éléments en face de la caméra qui elle-même est installée avec un angle et une focale bien choisie et à travailler en fait sur le point de fuite et du coup tricher sur le sentiment de la perspective, c'est-à-dire le fait que théoriquement un objet soit plus petit dès qu'il est plus lointain. Et ça donne quelque chose comme ça. Thank you. aussi simple que ça. Ça coûte pas cher et ça fonctionne très bien. Problème, si on veut bouger la caméra, là, on se retrouve évidemment à dévoiler que tout est truqué en termes de mise en place. Donc, c'est évidemment pas possible. L'autre truc très très utilisé que vous connaissez, parce qu'en fait il est classique, c'est la construction de décors et de props, donc de meubles, éléments de décor à l'échelle, de manière à pouvoir faire croire que c'est l'autre élément qui change d'échelle. Donc là, on a clairement trois fauteuils qui sont construits à des échelles différentes. C'est le même bonhomme, donc on est bien d'accord. Et évidemment, on travaille sur l'identification de l'objet, c'est-à-dire la chaise, comme référent. Voyez, et du coup, à partir du moment où on accepte ce référent, on estime que c'est l'autre élément qui change d'échelle, qui change de taille. Très simple. Énormément utilisé, notamment dans L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. On a là, par exemple, le piège à souris et le clou qui sont reconstitués à l'échelle par rapport à l'acteur. Après, l'autre point qui permet notamment de combiner différents éléments d'échelle diverses, c'est l'incrustation. Et il y a un moment ou un autre, on est obligé de passer par là parce que le public n'accepte pas qu'on ait quand même du champ contre champ sur, mettons par exemple, le chat et puis l'homme qui est en danger contre le chat. Bon, au bout d'un moment, on veut voir les deux dans la même image parce que sinon, on décroche. On a en fait la... On veut bien jouer le jeu, on veut bien, disons, avoir une suspension temporaire d'incrédulité, mais il y a un moment, il faut quand même qu'on nous offre un petit peu de quoi nourrir cette bonne volonté. Alors, le problème à l'époque, c'est que les incrustations étaient beaucoup plus difficiles à faire. D'abord, le 35 est un format qui était en fait qui était mécanique en termes d'enroulement, de cadence. On travaillait avec une griffe qui se mettait dans chaque perforation et qui entraînait le film par à-coup. On avait toujours quelques centièmes de millimètre de battement, ce qui fait que on avait une instabilité de l'image. Alors c'est embêtant quand on a par exemple un décor qui bouge un peu, puis un objet ou une personne incrustée dessus qui bouge aussi, mais pas forcément de la même manière. Ça ne fonctionne pas. Et puis en plus, quand on veut incruster, on travaille avec des caches, des contre-caches. Bref, c'est ça notamment qui fait qu'on se retrouve avec des liserés assez régulièrement dans les films de cette période. Il y a aussi les problèmes d'étalonnage. Alors ça, c'est très important. On se retrouve avec des objets incrustés ou des personnages incrustés qui sont soit trop clairs, soit trop sombres. Enfin bon, bref, ça ne fonctionne pas. Et puis, on ne peut pas tout incruster. Et notamment, tout ce qui est flou ou transparent, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit complètement opaque. On ne peut pas faire d'incrustation semi-transparente, c'est extrêmement compliqué. Alors, donc le principe, vous voyez, c'est qu'on a un masque et puis un contre-masque, donc, ou un cache et un contre-cache, on dit aussi comme ça, et ça va permettre d'incruster, enfin disons d'enregistrer par exemple le décor qui passe par le masque, on rebobine la pellicule et on amène l'autre élément avec le contre-masque de manière en fait à mettre là où on avait la réserve du fait du premier masque, le complément d'image. Alors, le principe a été utilisé en gros, ça s'appelle en fait cet instrument qui permet d'être à la fois d'avoir un projecteur et une caméra, le tout travaillé avec un dispositif optique, ça s'appelle la titreuse optique. Et ça a été utilisé jusqu'à l'arrivée du numérique. L'un des plus grands chefs-d'œuvre qui a été travaillé avec ce dispositif, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, où il y a énormément de couches et de masques. C'est un cauchemar à réaliser. Il n'y a eu aucune informatique dedans. Tout a été travaillé comme ça en 35 avec des caches contre caches. Enfin, un travail de fou. Alors, comme vous le voyez, par exemple, dans la séquence que l'on a vue tout à l'heure de l'homme qui rétrécit, on n'a pas d'ombre là. Et comme vous le voyez aussi, on a des problèmes de temps en temps d'étalonnage, parce que comme il est en train de courir ben le masque n'est pas bon, parce que finalement, par exemple, la jambe arrière est légèrement floue, puisqu'elle est, elle a un mouvement qui ne correspond, enfin, qui fonctionne pas très très bien avec la vitesse d'obturation du 35 mm, qui est de l'ordre de à peu près un trentième de seconde, donc qui va de toute façon nous donner du flou. Là aussi, vous voyez que le chat a une superbe ombre, et puis bon, le bonhomme, il n'a pas droit, parce que bon, voilà. Alors, par contre, quand on après, au plan suivant, on est sur lui, bah, il récupère son ombre, parce que là, il est dans un décor reconstitué, mais en plus grand. C'est-à-dire avec une gigantesque moquette, une gigantesque pied de table, etc. Et puis, il y a tout simplement un truc très simple qui est le montage. On utilise du champ contre champ et ça permet d'avoir finalement une action et réaction. Ça fonctionne pour certaines scènes, comme par exemple dans L'homme qui rétrécit, qui est une scène qui fonctionne très très bien parce qu'il suffit en fait d'avoir un bon champ contre champ avec une bonne orientation de caméra, plongée contre plongée par exemple. Vous voyez, il suffit d'avoir le bon angle de caméra pour avoir un subjectif, de travailler sur le raccord en termes de mouvement. Et de se rapprocher d'une vieille brioche en polystyrène. Non mais on rigole, mais en fait ça le fait très très bien. Hein. Je vous conseille, si vous n'avez pas vu ce film depuis longtemps, de rejeter un coup d'œil dessus, parce qu'il vaut vraiment le coup. Alors, il y a aussi la projection. Alors, pour combiner deux images. Alors, la projection frontale, qui est un truc très classique. Bon, là, je vais prendre un plan très célèbre de l'histoire du cinéma, à savoir les premiers plans de 2001. Toute l'idée, c'est d'avoir, comme vous voyez en haut à droite, une photo qui a été réalisée en Afrique, en l'occurrence, un coucher de soleil. On a le décor vrai studio en bas à droite. Et comme vous le voyez sur la gauche, en fait, on a un énorme écran de projection. On a le décor qui est planté devant, on a les acteurs et on balance la diapositive très très haute résolution être projetée donc, dans l'axe de la caméra, donc évidemment elle va sur l'écran, on se débrouille quand même pour que ça ne fasse pas d'ombre portée et on travaille l'éclairage de manière à ce que cette image ne se reflète pas trop par exemple dans les vêtements ou là en l'occurrence les poils des proto-humains. Ça fonctionne parfaitement, pour peu qu'on prenne soin quand même de régler l'éclairage. L'autre possibilité, c'est d'avoir au contraire le projecteur qui est mis derrière l'écran, mais c'est un écran translucide, donc en fait qui va servir de support, et ça, on met cet écran entre la caméra et le projecteur. On a vu ce truc-là très très souvent, notamment dans tous les plans de films classiques où on a la caméra sur le capot de la voiture et qu'on a la vue du pare-brise arrière avec une route pas forcément hyper synchrone avec les coups de volant et pas très très bien étalonnée par rapport à l'intérieur de la voiture. C'est en fait une manière de travailler qui a permis à Ray Harryhausen notamment d'inventer le procédé dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le Dynamotion. On avait le tournage réel qui était effectué en amont, on le projetait en projection arrière et lui mettait ses petites marionnettes par-dessus de manière à pouvoir les animer image par image. On connaît le résultat, ça fonctionne parfaitement. Ça, c'est une image du film de Nathan Juran, Le septième voyage de Sinbad. Et les bestioles dans tout ça? Alors bon, évidemment, on parlait de Tarantula, de Jack Arnold. Elles sont pénibles à crier comme ça. À cette époque, c'était terrible. Ce qui est terrible, c'est que en fait, moi, je pensais que j'avais terminé pile poil à 19h, et en fait, non. Donc je vais être obligé de couper un peu les extraits si on veut terminer. Bon. De toute façon, vous voyez le genre avec Tarantula. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est les rushs, parce que ça c'est très rare, c'est les rushs de tournage de Dem. Les monstres attaquent la ville avec des fourmis géantes. Alors évidemment, on a d'abord des vraies fourmis. Bon, jusque là, c'est un peu normal. Mais après, on va avoir les fourmis géantes avec des plans à longueur, c'est-à-dire pas montés. Et là, ça devient d'un ridicule merveilleux. On a ces pauvres bêtes en caoutchouc qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie. Heureusement qu'il y a un peu de vent, parce que du coup, bon, il y a les antennes qui sont vaguement bercées et qui font croire qu'elles sont vivantes. Voilà. Voilà. Tu remues tes antennes, s'il te plaît. Voilà. Y a quelqu'un pour bouger les pattes ? Ah, merci. Alors, la bestiole est quand même construite à l'échelle. Hein. Ce n'est pas de la plaisanterie. Vous allez voir un plan un peu plus tard avec un hélico qui passe dessus, on est vraiment la bête à l'échelle. Bon, ça ne rend pas plus effrayante et même ça ne lui donne pas un air plus intellectuel pour autant, hein, faut pas exagérer. Vous voyez, l'important c'est d'agiter la tête parce qu'on est sûr qu'il y a les antennes qui suivent, vous voyez. Puis évidemment, on rajoute les effets spéciaux, enfin les effets sonores. Alors, celle de droite est merveilleuse. Il y en a deux. Celle de droite, je ne sais pas. Elle s'est foutue en grève. Elle a pris trop de Lexomil le matin. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Mais alors, l'hélico qui se pose à côté, l'équipe de tournage, elle n'en a mais rien à battre. Elle est très zen. La fourmi géante. Enfin, elle a un petit air angoissé, hein, je suis d'accord, mais globalement, elle manque un peu de caféine. Ah oui, oui, ah bah, il fallait du monde. Voilà, il y a quelqu'un dedans, et puis bon, on essaye de faire bouger la tête. Le problème, c'est les pattes. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec du montage et puis on essaye de cadrer les pattes le moins possible. C'est du travail de découpage, il faut être clair, parce que là, aujourd'hui, ça ne serait absolument pas un problème avec une animation en 3D. Mais à l'époque, avec des bestioles qui, dans les plans larges, étaient grandeur nature, c'est-à-dire en fait à la taille du monstre, bah, il fallait avoir la possibilité de les bouger, et en fait c'était pas évident, donc du coup dès que ça commençait à devenir impossible, ben on travaillait sur le montage, on coupait, on mettait juste un plan de coupe sur la future victime, ou on mettait un plan plus rapproché sur une patte qui s'écrase sur le sol, comme si la fourmi venait de faire un pas, ce qu'elle a pas du tout fait d'ailleurs, parce que c'est une grosse feignasse cette fourmi géante. Et puis ça, on espérait que ça fasse la blague en rajoutant quelques sons bizarres, quoi. Bref, nous avons fini. Donc merci d'avoir suivi cette projection. Vous avez vu, on a quand même, c'est un peu écarté de la femme de 50 pieds. On a le temps pour une question ou... Une question. Il y a quelqu'un après ? Non ? Bah, si quelqu'un a une question... Ah, ça, c'est clair que l'arrivée du numérique a tout changé. Je veux dire, même avec un PC de base, on peut faire mieux. Enfin, pour peu qu'on connaisse les logiciels et qu'on ait la méthodologie. Par contre, alors, le côté mieux, ça dépend quoi. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de facilité à obtenir des effets qui soient réalistes et donc qui soient crédibles. Par contre... ça n'empêche que des effets spéciaux comme ceux qui sont utilisés dans le Voyage Fantastique nécessitent d'abord et avant tout un goût artistique, un œil. Et alors ça, quel que soit le moyen, ça reste l'humain qui est aux commandes. Mais effectivement, oui, comme je le disais, bon, voilà, s'il s'agit de faire marcher une saloperie de bestiole qui a plus de deux pattes, bon, à chaque fois, déjà, il faut commencer à réfléchir un peu, et qui est d'une échelle, disons, non naturelle, bon, bah, l'informatique est évidemment bien meilleure, quoi. Mais, voilà, qu'est-ce qu'on préfère, le King Kong de 1933 ou le King Kong de Peter Jackson? Vous voyez ce que je veux dire? Disons qu'en art, très souvent, l'approximation, ou en tout cas le manque de l'imperfection, a une valeur poétique. Alors après, ça dépend de ce que l'on veut obtenir. Dernière question, si vous voulez. Oui, oui, oui. Absolument. Les tout, d'abord, ça coûtait extrêmement cher. Et puis, les effets n'étaient pas. Enfin, le résultat n'était pas extraordinaire parce que les logiciels n'étaient pas bons. Moi, je travaillais dans les effets spéciaux à ce moment-là. Donc, j'ai connu la transition. Je commençais par le 35 et puis après, je me suis retrouvé à faire du cinéma plus numérique. Et en travaillant notamment sur les intégrations 3D, tournage réel, etc. Et au départ. On galérait, en fait, techniquement, d'ailleurs, pour commencer. Et puis, on essayait de cacher les problèmes. Et puis, il y avait tout simplement des trucs qu'on ne pouvait pas faire. Je vous donnais un exemple très clair. Un des gros problèmes que l'on avait, notamment à la fin des années 80, début 90, quand j'ai commencé, c'était tout ce qui est de l'ordre des cheveux, poils, fourrures, etc. C'était un cauchemar. On avait un résultat de plastique. Alors, ça allait. Certaines boîtes de prod, contournait le problème en l'utilisant, c'est-à-dire que typiquement on prend Toy Story, on a des jouets, c'est plastique et puis on a de la fausse fourrure et donc du coup on ne met à l'écran que ce qu'on sait faire, mais du coup on adapte le scénario pour que ça fonctionne, quoi. Mais dès qu'il s'agissait vraiment de faire des trucages et du coup de s'adapter à un monde réel, là on était vraiment mal et du coup ce qu'on faisait, c'est qu'on trichait en mettant de temps en temps de l'animatronique pour les plans un peu rapprochés, puis quand c'était un peu lointain, c'était plutôt de la 3D, etc. Et puis aujourd'hui, on a les trois nouveaux films de la planète des singes qui sont sortis avec des fourrures hallucinantes, avec une animation faciale à base de motion capture, donc en fait de récupération d'informations, de points qui sont sur les visages de manière à les, en fait, animer la sculpture virtuelle qui a elle-même des muscles paramétrés. Mais c'est surtout qu'on a les singes avec leur fourrure sous la pluie, dans des conditions d'éclairage très particulières, enfin, avec un résultat totalement crédible, et on aurait était incapable de le faire il y a 25 ans. Là, à l'heure actuelle, on peut à peu près tout faire, en fait. On est arrivé à la maturité. Après, c'est juste une question de budget et de direction de production. Mais il n'y a pas vraiment de limite. Après, c'est c'est ça qui est bien. C'est que la vraie limite que l'on va avoir, ça va être l'imagination. La vision des images et puis bien évidemment le scénario. Ceci dit, pour reprendre ce que vous disiez, le côté maladroit ou parfois même un peu kitsch, on peut l'avoir quand même encore aujourd'hui par une utilisation trop importante de la 3D. Par contre, je veux dire, les grands mouvements de caméra, parce qu'on peut faire du tracking 3D par exemple, donc on va faire virevolter la caméra dans tous les sens. C'est pas forcément très intéressant d'un point de vue de pure mise en scène. Vous voyez, on n'a pas besoin, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire, quoi. C'est un petit peu comme les plans de drone qui inondent la production actuelle, que ce soit en télé ou en long métrage. Oui, alors effectivement, on n'avait pas de drone qui était capable de tourner en 4K dans des conditions correctes il y a, mettons, 15 ans. Donc on peut le faire, mais ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit absolument le faire en permanence. Si un plan apporte quelque chose à la narration, c'est-à-dire en fait soutient la narration, oui. Si c'est juste pour avoir, disons, un côté un peu spectaculaire, Ben non, parce que même je trouve que c'est plutôt problématique dans le sens où ça sort un peu le spectateur de la continuité narrative, ça l'éjecte. Et du coup, après, il faut recoller les wagons, il faut le remettre dans son statut de spectateur qui se demande en fait ce qui va se passer après en termes de dramaturgie, donc qui doit être accroché. Parfois, en fait, le mieux est l'ennemi du bien dans la mise en scène. Il faut savoir s'arrêter au moment où ça commence à devenir un problème en fait narratif. Voilà, c'est une question de dosage. Bon, eh bien, je crois qu'en fait il y a la cérémonie qui commence. Donc, pour ceux que ça intéresse.
Futur, littérature, cybernétique, avenir, prospective, science-fiction, liberté, utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021.